tout vient à un seul homme et repart d'un seul homme. Josué est un personnage très important dans l'histoire de la Torah. Et c'est lui qui est nommé le Sauveur. C'est le premier nom patronymique, si vous voulez, du Sauveur, Josué, qu'on retrouvera chez toute une série de prophètes, qui est Osée, Hoshéa, et puis Ishayahu, Isaïe, et puis Yahushua, Josué, je crois qu'il y en a un quatrième. Pardon ? J'entends pas.
Oui.
Ah oui, alors non, Lot, c'est autre chose. Justement, et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont donné exactement les mêmes lettres que le mot de Esav, Esaü. Hein? Si vous prenez le mot de Esav, la tmoura de lettres forme exactement le nom auquel vous pensez. Avec le Yod. Esav, il y a Yod. Top. Mais là, il y a donc un moment exceptionnel, Josué étant le seul homme à pouvoir recevoir et transmettre. Objection. Quand même, Josué n'était pas le seul. Puisque du point de vue du contenu de la Torah, il y avait tous les Kohanim, il y avait tous les Nevi'im, il y avait tous les chefs des tribus. Vous connaissez la méthodologie de l'enseignement de la Torah au temps de Moïse. Moïse commençait par enseigner à Aaron, et ensuite venaient les fils d'Aaron, et Moïse enseignait aux fils d'Aaron, ce qui fait qu'Aaron entendait une fois comme lui devait entendre, une deuxième fois comme ses fils devaient entendre, c'est là le secret de la pédagogie d'ailleurs. Ensuite on faisait venir les différents chefs des tribus, ce qui fait qu'Aaron avait entendu trois fois, comme pour lui, comme pour ses fils et comme pour les chefs des tribus. Donc, en fin de compte, par degrés, on faisait venir tout le peuple, et Moïse s'adressait à l'ensemble du peuple, de telle sorte que chacun de la hiérarchie entendait comment il fallait parler à chacun de la hiérarchie. Et le secret de la pédagogie de la Torah, c'est que le plus grand doit enseigner au plus petit. C'est le contraire de l'université. Hein? Ou à l'université, il y a, enfin, de la formation universitaire, où il y a des différentes hiérarchies, et en fait, comme tout le monde est ignorant, parce qu'on n'apprend que de quelqu'un qui est un peu moins ignorant que soi. Hein? Et on raconte d'ailleurs que le dernier grand qui a été ainsi, c'était le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna qui était le plus grand des grands de son temps, et qui, pour lui, la mitzvah d'enseigner la Torah, c'était d'aller dans la choule de quartier, parler au cocher de fiacre, ou au chauffeur de taxi, comme on dit aujourd'hui. Le plus grand doit donner au petit, au plus petit. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tout le processus de l'enseignement de la Torah consiste à pouvoir transfigurer par la sagesse ceux qui ont le plus grand besoin de la sagesse, et non pas ceux qui ont le moins besoin de la sagesse. Le projet de la sagesse consiste à déverser de plus haut jusque là où il y a le plus bas. Et c'est ce qui passe de génération en génération, c'est ce qui se déverse de cela. Je veux dire, celui qui donne, donne le plus possible, et celui qui reçoit, reçoit le moins, et c'est cela qui passe. Finalement, de génération en génération. Alors, étant donné qu'il en est ainsi, il est nécessaire de donner au plus bas, de telle sorte qu'il y ait plus de chances que cela se transmette. Enfin, je veux dire en d'autres termes, ce qu'il faut éviter, c'est l'intellectualisme ou l'académisme. Enfin, ce qui est important, c'est que les gens du peuple connaissent la Torah, et le peu qu'ils connaissent est plus important que le beaucoup que connaissent les spécialistes. Est-ce que c'est bien clair ? Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une école, mais il s'agit d'un peuple. Et alors, on est émerveillé d'entendre la radio israélienne. Quand les speakers parlent aux gens du peuple, les expressions de Torah qu'ils emploient, on pourrait dire ils savent pas ce qu'ils disent, mais tout ce qu'ils disent est exact. Et c'est assez impressionnant, effectivement, de voir dans quel langage on se parle de chauffeur de taxi à employer des postes ou des impôts. Bon, pour revenir donc au problème. Josué est un cas particulier. Et immédiatement après lui, apparaissent des ensembles. L'ensemble des juges. Skenim, vous voyez, c'est au pluriel. Pas à tel ou tel ou tel, mais à une classe, à un groupe. En tant qu'ils sont chargés de dire ce qu'est la justice dans le sens de juridiction. Et comme vous le voyez, ça passe avant ce que les prophètes avaient à dire. Dans le sens de la prophétie, nous retrouvons toujours le même ordre. Skenim avant Nevi'im, parce que Derecheretz avant Torah, parce que Olam Hazeh avant Olam Haba. Enfin, les juges parlent pour l'organisation de la société terrestre. Et les prophètes, après seulement, parleront pour la projection dans le monde à venir. Mais dans tous les cas, chacun des juges, chacun des prophètes a sa valeur personnelle, mais fait partie d'un groupe. Il y a les juges en général, et la Torah qui nous vient des juges nous vient de façon indifférenciée. Encore une fois, chacun à l'échelle individuelle est capable de toute la Torah, mais c'est ensemble qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent, en tant que corps constitué, si j'ose dire. Cela est vrai pour les juges, cela est vrai pour les prophètes. Et apparaît une nouvelle étape qui est un Cheikh Nesset Agedola et qui est extrêmement importante dans l'ordre des charnières de la transmission. C'est l'étape de l'arrêt de la prophétie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à un groupe, là encore, un groupe constitué, c'est ensemble que les Cheikh Nesset Agedola reçoivent et élaborent la transmission, reçoivent d'une part et d'autre part élaborent la transmission, ensemble, en tant que collectivité. Hé Mamrou, Shlosha de Barim, comme nous allons voir dans la fin de la Mishnah. Ils ont dit, eux, ensemble. Alors que dans les stades précédents, les juges, c'est un groupe, mais chacun d'entre eux est tout seul. Les Nevi'im, c'est un groupe, mais chacun d'entre eux est tout seul. Chacun a son style, chacun a sa manière. Anshik Nesset Agedola, c'est un groupe, et qui ne parle qu'en tant que groupe, et qui n'est habilité qu'en tant que groupe. Vous voyez l'étape importante de cette charnière. Pourquoi ? Et c'est eux que l'on nommera les Avot. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a là une récapitulation d'identité. C'est le temps où la prophétie cesse. C'est le temps où il n'est plus possible de se référer pour vérification à celui qui donne, à celui qui transmet. Cela a été reçu, et avec la quantité de Torah et de Chokhmah qui a été reçue, en mettant en commun l'envergure de chacun, au niveau d'une identité collective d'un Cheikh Nesset Agedola, on doit élaborer les directives pour le Kahal, les directives pour la communauté. Effectivement, c'est le temps où la révélation a cessé, comme vous le savez, du point de vue des dates. Je ne reviens pas sur ces analyses. Et par conséquent, les consignes qui vont être données par un Cheikh Nesset Agedola concernent l'authentification de cette transmission. Mais c'est en tant que groupe qu'ils ont à charge de reformuler pour les générations à venir la Torah qui avait été entendue du ciel jusqu'à présent. Et nous avons là donc toutes les étapes de la descente de l'incarnation. C'est-à-dire la Torah de la Kedusha s'incarne de plus en plus dans le Olam HaMaaseh, dans le monde des actions, dans le monde des actes, corollairement avec cette occultation de la source même de la révélation. On entre dans les temps historiques dans lesquels nous nous trouvons depuis ce temps-là, et qui consiste à confier au génie de la collectivité d'Israël les prérogatives de l'interprétation de la Torah qui avait été transmise de Dieu à Moïse, puis de Moïse à Josué, puis de Josué, etc. Et parce que la Torah va être confiée au génie humain, alors il y a risque qu'elle soit dénaturée, et c'est la raison pour laquelle vont apparaître les trois consignes que les Cheikh Nesset Agedola vont donner. Mais avant d'aller plus loin, nous allons rattacher cette analyse à notre sujet général. Pourquoi on appelle Cheikh Nesset Agedola Avot HaOlam, les pères de la génération? C'est parce que, en tant que collectivité, ils ont eu à récapituler les données de l'identité d'Israël telles qu'elles commencent à émerger au moment des patriarches. Ils sont pour notre monde comme les patriarches avaient été pour le leur. Récapituler l'expérience du Derech Eretz et la transmettre, mais pas n'importe qui peut transmettre ces critères, seuls ceux qui se rattachent à l'ordre de Olam Haba par la Torah, ceux qui se rattachent à la lignée de la transmission de la révélation elle-même. Je voudrais, donc avant d'aller plus loin, vous lire un passage du Maharal qui nous parle de cette identité de Av, cette identité de Père. Et je n'entends pas que le temps va très vite. Écoutez, alors, avant de vous lire ce passage, je voudrais quand même, si vous avez des questions là-dessus, qu'on commence à les étudier, parce que malheureusement, je dois partir assez vite pour participer à un mariage. Vous voyez, mitzvah, keneged mitzvah. C'est une bonne question, ça. Je veux dire, le Talmud, c'est l'ordre des mitzvot, de la Torah elle-même. Le Talmud, c'est la mise en, en légalité, si vous voulez, des mitzvot de la Torah elle-même. Et le problème, c'est tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Pourquoi cette Mishnah n'est pas au début de Brachot, mais se trouve au début de Avot? Alors en fait, la vraie question est pourquoi il y a une Mishnah de Avot dans le Talmud? Puisque le Derech Eretz précède la Torah, eh bien, cet ordre, d'abord Derech Eretz, ensuite Torah, a déjà eu lieu. Par conséquent, pourquoi nécessité de nous donner encore un enseignement de Derech Eretz après la Torah? Vous comprenez votre la question que vous posez, finalement, c'est ça? Eh bien, nous en avons la réponse dans ce qu'on vient d'étudier. La Torah, le Derech Eretz a précédé la Torah jusqu'à un chèque Knesset HaGedola. Il en était ainsi. Le Derech Eretz, c'est depuis Abraham jusqu'à Moïse. Abraham ayant récapitulé le Derech Eretz depuis le premier homme. Et ensuite, apparaît le temps de la Torah. Mais voilà, tout ce temps de la Torah s'achève au moment de l'arrêt de la révélation, commence un temps où, de nouveau, il faut qu'il y ait un Derech Eretz préalable à notre Torah. Alors c'est la raison pour laquelle le Derech Eretz des Anshei Knesset HaGedola apparaît comme quelque chose de nouveau. Cette Maseret Avot, c'est l'enseignement des Anshei Knesset HaGedola et qui reprend en quelque sorte, pour les générations qui vont suivre jusqu'à nous, qui reprend cet enseignement de Derech Eretz préalable à la Torah qui était au nom des patriarches. Est-ce que est-ce que j'ai bien compris votre question? Voilà l'ordre des choses. Il y a avant le temps de la révélation au Sinaï, il y a tout un effort de l'humanité pour faire exister une identité humaine capable de recevoir cette Torah de la sainteté. Et puis maintenant c'est fait, et il y a tout un cycle historique qui s'achève. Depuis Moïse jusqu'à Anshei Knesset HaGedola, c'était un temps de Torah. Et voilà que tout a recommencé. La grande différence, c'est que jusque-là c'était à l'échelle individuelle, et qu'à partir de Anshei Knesset HaGedola, c'est à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle du groupe. Vous voyez, qui parle dans Anshei Knesset HaGedola? C'est le groupe. Il y a une promotion d'identité qui est que, en termes philosophiques, on pourrait dire, à partir d'eux, c'est le problème social qui se pose. Vous voyez comment la modernité a commencé pour nous il y a 2400 ans. C'est le problème de la vie en société qui se pose. Le problème de cette identité collective et anonyme qui est l'identité du social. Jusqu'à eux, l'épreuve de l'homme était à l'échelle individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai une question, c'est très embrouillée dans mon esprit.
Oui,
vous avez beaucoup parlé de ces moments charnières entre la révélation et la cessation de la prophétie.
Oui.
C'est vraiment extrêmement important. Et puis je crois que dans les Talmud, je ne sais plus où, il y a une sorte de question posée sur le libre arbitre de l'acceptation de la Torah au Sinaï.
Oui, c'est dans...
En réalité, les peuples étaient il y avait une sorte d'obligation, et qu'à partir du moment d'Esther, où cesse la prophétie, c'est à ce moment-là, soi-disant, où Israël a vraiment reçu la Torah.
C'est très bien. C'est dans... Oui. C'est dans la Gemara de Shabbat, page 88.
Ah. Shabbat probablement.
C'est dans Shabbat, page 87 ou 88. Ah. Alors si c'est 87, c'est au milieu de la page. Et c'est une Haggadah très connue. Et je vous répète la question pour tous. Et à propos de ce moment de la cessation de la révélation à laquelle j'ai fait allusion, il y a un texte de la Gemara qui dit que lorsque le peuple a reçu la Torah au Sinaï, il l'a reçu contraint et forcé. Et que ce n'est qu'à la fin de la révélation, du temps de la révélation, que vraiment il a accepté la Torah de façon libre. Alors, cette Agada est à propos du verset qui est mou ve kiblou hayehoudim dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther dit que les Juifs, au temps de la reine Esther, donc c'est ce temps, hein, de l'occultation de la révélation, au temps de la reine Esther, ont réalisé et accepté les décisions du Bédine de leur époque. Alors le Gemara pose la question, il aurait fallu dire, ont accepté et réalisé. Qui vlou d'abord, qui mou après. Et la Gemara répond une chose assez extraordinaire. Qui est mou, mach et qui vlou kebar. Ils ont réalisé au temps d'Assuérus, de la reine Esther, ce qu'ils avaient accepté au Sinaï. Et c'est là que la Gemara dit, dans l'Agada suivante, là que la Gemara dit, au Sinaï, Dieu a renversé la montagne sur les Hébreux en leur disant, si, voilà la Torah, si vous l'acceptez c'est bien, sinon je lâche la montagne et ce sera votre tombe. Et alors les Hébreux ne pouvaient pas faire autrement que d'accepter, mettez-vous à leur place. Et tandis que c'est à partir du temps d'Esther qu'ils ont accepté librement. Que signifie cette Agada? Enfin beaucoup de choses dans le détail, mais l'idée générale c'est que lorsque Dieu est présent pour révéler, qui peut dire non? C'est aussi le problème de Job. Hein? De quoi Job souffrait? De ce que Dieu ne se révélait pas. Dès que Dieu se révèle, il est guéri. Et la réponse de Dieu, Job n'a pas compris, puisque nous, on ne comprend pas encore. Regardez, dans la fin du livre de Job, lorsque Dieu répond à Job, hein, il raconte la fabrication d'un monde. Hein, il dit à Job, est-ce que tu étais là quand j'ai mesuré le ciel, quand j'ai, enfin, les choses qui vont se produire à la fin des temps. Hein, et on ne comprend pas. Mais ce qui suffit à Job, c'est que Dieu lui parle. Alors il est guéri. Vous voyez, là, le tokef, c'est-à-dire la force de la présence de celui qui révèle est telle qu'on ne peut pas refuser. Vous comprenez? Par conséquent, ça n'a pas de sens de dire qu'au biais du Sinaï, les Hébreux étaient libres d'accepter ou de refuser, c'est Dieu qui parle. Est-ce que c'est bien clair? Alors oui, leur mérite d'avoir accepté la Torah, premièrement, d'aller jusqu'au Sinaï en sachant ce qui les attendait. Le mérite était premièrement dans ce qui s'est passé avant. Vous comprenez? Moïse les convoque à un rendez-vous avec l'Absolu, en leur disant, on va aller là-bas, et là-bas vous allez entendre l'Absolu parler. Je vous préviens, quand l'Absolu parlera, vous serez paralysés. Hein? Ils vont quand même. Alors c'est ça leur mérite, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est que être resté fidèle à cette révélation qui était contraignante par la force de la présence du révélateur, si j'ose dire, qui était contraignante jusqu'au temps, justement, de la reine Esther. Être fidèle après, quand il n'y a plus cette contrainte de l'évidence. Être fidèle quand même, c'est vraiment là que la foi commence. On est les Juifs ont plus de mérite d'être juifs que les Hébreux n'avaient de mérite d'être hébreux. Parce que les Hébreux étaient soumis à l'expérience du révélé. Vous comprenez je vous donne un exemple en mathématiques. Hein? Si vous arrivez à l'évidence d'un théorème, vous ne pouvez plus dire que c'est autrement. Il y a une évidence contraignante. Alors quel mérite il y a de connaître la vérité quand la vérité s'impose? C'est la vérité qui s'impose. Je n'ai aucun mérite de dire c'est vrai, puisque ça s'impose à moi. Est-ce que c'est bien clair? De la même manière, le Talmid Chacham, finalement, a moins de mérite que le Hamaret. Le Talmid Chacham croit parce qu'il sait. Il mérite à la foi d'un Talmid Chacham. Puisqu'il sait, il ne peut pas ne pas faire autrement que de croire, puisqu'il sait. Est-ce que c'est bien clair? Tandis que le Hamaret, celui qui ne sait pas et qui croit quand même, c'est celui-là qui a vraiment du mérite. Je dis ça parce que on tombe toujours dans le piège de mépriser un peu ceux qui disent Amen. Hein? Mais la Gemara a dit... Celui qui répond Amen est plus grand que celui qui a dit la bracha à laquelle il faut répondre Amen. Parce que celui qui a dit la bracha, il sait ce qu'il dit. Et vous comprenez, c'est pas l'ishma, puisqu'il sait. Tandis que celui qui répond Amen a plus de mérite, puisqu'il ne sait pas. Et ne croyez pas que c'est un paradoxe. Hein? C'est la raison pour laquelle les vrais Talmidei Chachamim vous diront toujours qu'en réalité, ils ne savent pas. Parce que il faut bien qu'ils aient le mérite de croire. Bien, cette chose-là qui a été dite, qu'au moins on sait une chose de sûre, c'est qu'on ne sait pas, c'est pas tellement seulement de l'humour, c'est beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Mais c'est pas seulement cela. Il y a des choses qui finalement sont toujours le refuge de la Emouna. Et toujours les maîtres de la Kabbalah commencent leur enseignement en disant « Da vehe emin ».« Da vehe emin », c'est-à-dire « sache et crois ». Parce qu'il ne suffit pas de savoir, là il n'y a aucun mérite. C'est l'évidence qui est contraignante. Mais adhérer à ce que l'on sait, c'est là où est l'endroit du mérite. Et par conséquent, vous voyez donc cette charnière de Anshe Knesset HaGedola est très importante. C'est là que va commencer le temps où il n'y a pas la contrainte de la révélation elle-même en tant qu'expérience, en tant qu'événement. Et par conséquent, il y a le plus grand risque de faire dire au souvenir de cette révélation n'importe quoi. Il faut donc des critères, il faut donc des consignes. Il faut donc de nouveau un moussa. Il faut donc de nouveau un derrière.
Je veux savoir si sur la chaîne de la tradition, après Moshe, Yoshua et les Chokidim, qui étaient aussi les chefs spirituels et les chefs civils d'Israël, il y a une préparation qui se fait, on ne parle pas de la voie des malachim. On dit que la tradition ne seront pas les malachim, c'est-à-dire en particulier David et Shlomo, la tradition.
Ah, les malachim. Oui. Effectivement, pourquoi on ne parle pas des inspirés qui ont été les rois, hein? Le Maharal pose cette question, effectivement, parce que ce n'est pas du tout en tant que rois qu'ils ont été inspirés. C'est en tant qu'ils étaient aussi Shoftim. C'est en tant que David était le Harbeddin, c'est-à-dire le chef du tribunal, qu'il recevait l'inspiration. Pas en tant qu'il était roi. C'est bien clair. Enfin, c'est en tant que Shlomo était Hacham qu'il a reçu la sagesse. Pas en tant qu'il était Melech. C'est-à-dire, voilà. Et puis, l'autre question.
La première Mishnah
Oui.
Et il y a un thème qui est assez courant dans la tradition, que le niveau des hommes de cette génération est inférieur au niveau des hommes inférieurs.
Oui.
Dans cette logique, on s'interroge sur la conception juive en grâce.
Et c'est une question extrêmement importante. Et, en fait, il y a d'abord deux réponses. Ce qui est transmis, c'est la capacité, le droit, l'autorité à donner la Torah. C'est cette autorité, cette envergure d'autorité, si vous voulez, qui diminue, du point de vue de la diminution d'envergure personnelle. On dit Shmuel Bedoro, Iftah Bedoro, Shmuel Bedoro. Jephté à sa génération est comme Samuel à sa génération. Mais Samuel avait une envergure gigantesque par rapport à Jephté. Jephté, c'était un chef de bande. Enfin, Samuel, c'était un chef de peuple. C'est très différent. Vous savez qui est Jephté, la fille de Jephté. Donc, on voit que l'envergure des générations diminue. Mais c'est encore une fois, cette habilitation, cette capacité à être celui qui a le principe d'autorité entre les mains. Du point de vue de la quantité de Torah, c'est la même à chaque génération. Et d'autre part, du point de vue de la Torah telle qu'elle est incarnée dans l'existence, il y a progrès. Si vous voulez, il y a déperdition en essence, mais il y a progrès en existence. Du point de vue de l'affinement de l'incarnation des valeurs de la Torah dans l'existence concrète, il y a progrès considérable. Du point de vue de la capacité de perception des principes, il y a, au contraire, baisse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Du point de vue des Avot, nous sommes de moins en moins Avot. Mais du point de vue des Banim, nous sommes de plus en plus Banim. C'est, je crois, par là qu'on peut résoudre le problème. Il y a l'enseignement des Chassidim, et on s'arrêtera là ce matin, qui dit ceci. Il y a deux pôles. Au début de l'histoire de la Torah, il y a Moshe. La lumière de la Torah que révèle Moshe. Et puis à la fin, il y a la lumière de la Torah que révèle le Mashiach, le Messie. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on s'éloigne de la lumière de la Torah à la manière de Moshe, et on se rapproche de la manière de la Torah à la manière du Mashiach. Mais en valeur absolue, il y en a autant. De moins en moins, comme Moshe, de plus en plus, comme le Mashiach. Vous voyez, chaque fois en coupe verticale, vous avez la même quantité. Et les Chassidim ajoutent que le Haram qui a été le plus malheureux de l'histoire d'Israël, c'est Maïmonide, parce qu'il était exactement au milieu, au milieu, entre la Torah à la manière de Moshe et la Torah à la manière du Mashiach. C'est la raison pour laquelle personne ne l'a compris. Parce qu'il était juste au milieu. Alors si vous savez calculer, vous saurez quand est-ce que le Mashiach. Bien.
Alors, on va attendre encore.
Certainement.